des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After, c'est parti pour 2 heures d'After comme tous les lundis, bien entendu 2 heures de bonheur. Dans quelques instants, les avis tranchés de Daniel Riolo et de Pierre Ducrot, les questions de l'After comme tous les lundis, et puis les drôles de dames qui seront là dès 22h45. Il est là, il est beau, il est cravaté, Pierre Ducrot, bonsoir Pierre.
Bonsoir messieurs.
Daniel Riolo, bonsoir.
Moi j'ai pas une introduction.
Il est là avec une veste, une veste de saison.
Il est beau quoi qu'il en soit.
Ouais, vas-y encore.
Ah, c'est bien.
T'aimes bien ça ?
Bonsoir les amis.
Ok, d'accord. Bonsoir Daniel, on vient de te dire.
Ouais, tu reviens de vacances, hein, t'as la pêche. Hein.
Ah, c'était pas trop ça ce week-end, et là je commence à me remettre dedans.
Ah, c'est ça. Décalage horaire.
Ouais, comme quoi un mec il peut pas revenir et être en forme tout de suite, avoir le rythme.
Décalage horaire, ouais. Alors le mien il était violent.
Décalage horaire, le gars.
Attends, ouais, non, mais quand tu te remets de décalage de Lisbonne. Ouais, c'était.
T'es pas allé plus loin que Lisbonne.
J'ai pas pu, malheureusement.
T'as les vacances, c'est.
Non,
pas. Au bled ou rien.
Non, oh non, ça faisait un moment que j'allais pas au bled en plus. Hein. Vraiment.
Ouais. T'avais pas le droit, tu pouvais pas te faire plaisir et aller
au
soleil à te faire rôtir.
Il y a parfois des choses qui font que.
Il y a des contextes parfois qui font que t'es obligé.
Les gars, la Ligue 2 ce soir. Ouais, des fois on est obligé aussi. 21e journée de Ligue 2 ce soir. Par PFC face à Brest, c'est Jordan Olivier qui suit ça pour nous. Salut Jordan.
Salut Jordan.
Salut Nico, mais comment ça on est obligé la Ligue 2? C'est un très beau match de Ligue 2.
On décolle, j'ai fait du national pendant 5 ans, mon pote. On pense bien que la Ligue 2, c'est galère.
Moi j'ai joué en Ligue 2.
Le score va tomber et il arrêtera de faire le guignol, donc 0-0.
Et non,
parce
qu'il y a des buts perdus au match, et donc il y a des buts forcément.
1-0 Daniel pour le Stade Brestois. Depuis 1-0 pour le Stade Brestois.
Vous êtes énervé, j'ai eu l'impression que vous allez dire 4-3.
Non, mais tu vas comprendre pourquoi il est énervé. Pierre. Qui a marqué, Jordan?
Écoute, c'est Brendan Chardonnay, ouais, le défenseur du Stade Brestois.
Qui est l'agent de Brendan Chardonnay?
Ah, me dis pas que c'est Pierre Ducrot quand même.
Bah, attends, bingo, attends, si ça marque, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Brendan, son vrai prénom c'est Brendan. Donc.
A priori, son vrai prénom c'est Brendan. Écoute,
pourquoi
c'est
Jordan,
temps, ça... ils ont voulu jouer les Américains, mais ils ont fini un prénom de fille alors.
Non, c'est Brendan.
C'est Daniel Zablon, un peu comme Jordan.
Brendan, c'est un vrai prénom.
En tout cas, c'est original. En tout cas, c'est.
Ouais. Donc, on donne des prénoms américains.
Et Jordan, alors qu'est-ce qu'il dit du coup? Jordan, défends-toi aussi.
Non, mais ses parents devaient être fans de Michael Jordan, peut-être, mais.
C'est. Effectivement, c'est ça, Daniel. Fan de Michael Jordan. Mais en tout cas, c'est du football ce soir.
Oui, vas-y, Jordan.
Charletti.
Brendan Chardonnay.
C'est du football et c'est bien le Stade Brestois qui mène 1-0. Donc, Brendan Chardonnay, et c'est mérité puisque ce sont les Brestois qui dominent depuis le début du match. On a passé l'heure de jeu. 1-0 donc pour le Stade Brestois.
Question importante, je sais pas si t'as suivi l'after hier, Jordan. Est-ce que Brendan Chardonnay mâche des chewing-gums lorsqu'il joue?
Écoute, d'où on est, c'est difficile à voir, mais a priori, il ne mâche pas de chewing-gum.
Ça, franchement, tu peux en rigoler, bien sûr. Mais
tu sais qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Non, mais très sérieusement, si.
Hallucinant que vous n'ayez pas compris ça et que vous pensiez que ça peut se faire, que c'est normal.
Non, mais Daniel, tu veux que je te dise,
souvent les gardiens de but jouent avec des chewing-gum aussi.
Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais c'est le fait que ça peut gêner pour la respiration. Mais ça, on n'en a pas parlé hier.
Évidemment. Mais c'est pourquoi.
L'aspect physiologique.
Mais tu crois que
moi aussi, j'ai reçu un truc.
Je te dis pourquoi.
Non. Alors, je t'explique. Quand tu regarderas ce que font les joueurs avec leur chewing-gum quand ils jouent avec, ou alors si tu le vois pas à la caméra, moi je l'ai vu pendant 20 ans, les joueurs qui prennent un chewing-gum sur le terrain, c'est pas parce qu'ils ont envie de mâcher pendant une heure et demie, c'est comme une superstition au début du match, ils prennent leur chewing-gum et le chewing-gum, tu sais où il est entre les dents et la joue tout le match quasiment.
Non, mais tu peux l'avaler, tu vois ce que je veux dire.
De temps en temps quand tu joues pas et qu'il y a un arrêt de jeu, tac, tu remâches ton chewing-gum.
Mais tu peux l'avaler.
Donc si toi t'es entraîneur, tu dis pas à tes joueurs de pas faire ça.
Mais bien sûr que non, s'il se sent bien avec un chewing-gum, qu'il mâche un chewing-gum, le garçon.
Très bien.
Il en mâche deux, même s'il
veut. C'est pas normal.
Le paquet, moi, s'il est bien.
Je pense pas que le mec, il peut s'étouffer et tout, il court, machin.
Un chewing-gum, les gars. Oh, s'il fait quelque chose de chewing-gum, il l'avale et c'est tout.
Ouais, mais bon, ça peut le gêner, quoi.
C'est pas des malabars. Tu prends des petits frites dans.
T'inquiète pas, Pierre. La grande majorité de ceux qui ont écouté hier ont compris ce que je voulais dire. Et qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu penses, c'est hallucinant. Mais demande aux entraîneurs, tu dois en connaître un peu plus.
Demandez, Daniel, j'ai joué 20 ans au foot. Je les ai vus, moi, les mecs, je mâchais leur chewing-gum.
C'est une aberration.
Il n'y avait pas que des mauvais joueurs ou des mecs arrogants, je te jure.
Alors, sachez, les mecs, qu'il y a un autre match de Ligue 2 ce soir. Le Havre face au Red Star, et c'est Christophe Lécuyer qui est au stade Océane. Salut, Christophe.
Salut, messieurs. Bonsoir à tous.
Salut, Christophe. Ouais, eu l'exploit.
Exactement.
La victoire des Françaises.
Et moi aussi, je défends la Ligue 2 parce que franchement, on assiste à des super matchs. D'ailleurs, je vais vous faire la liste des buteurs ici au Havre. Eh bien, non, 0-0 après 48 minutes de jeu, mais ça va venir. En même temps, on a assisté à un 4-3 la semaine dernière, quand même, messieurs, ici. 4-3 pour le Havre face à Valenciennes, mais je crois qu'ils ont tout donné, les Havrais, parce que là, ils n'ont plus rien dans les jambes ce soir.
Est-ce que tu étais au match des Nanas?
Oui, bien sûr.
C'était très très bien.
C'était franchement sympa. Ouais. Il y avait 22 000 supporters, et bah, là aussi, on est retombé à 4 000, hein, ce soir. Visiblement, ici, c'est le foot féminin qui intéresse au Havre. L'affluence est divisée par quasiment 6 ce soir, mais non, franchement, samedi, c'était vraiment sympa. Il y avait une belle ambiance, et il y a honnêtement une très belle équipe de France qui s'est imposée, on le rappelle, 3-1 face aux États-Unis, le Havre qui fera partie des villes qui accueilleront la Coupe du Monde.
Mais Christophe, tu sais que Monsieur Volpe, le président du HAC, a vraiment est tombé, est amoureux de son équipe féminine. Il fait énormément
exactement,
de choses pour son équipe féminine.
Complètement. D'ailleurs, vous savez que les Havraises affronteront le week-end prochain le Paris Saint-Germain ici même au Stade Océane en Coupe de France. Ouais,
c'est
complètement.
Vrai, oui, vas-y, Christophe.
Ouais, non, j'allais dire, il y aura peut-être plus de spectacles que ce soir, parce que pour l'instant, après 49 minutes, c'est très pauvre en termes d'occasion, et c'est assez logiquement d'ailleurs
douter,
que le score est toujours de 0-0. On va
pas parler d'autre chose.
Merci, Christophe. J'en profite pour vous dire, tu parlais de Coupe de France. Sachez que demain, mercredi et jeudi, soirée Coupe de France sur RMC, vous pourrez suivre tous les 16e de finale, notamment dans Team Dugas, et pas seulement également dans la soirée. Et j'en profite également pour vous dire, vous savez que bientôt, il y aura un nouveau membre dans la bande de l'After, grâce à l'After Academy. Et là, on doit avouer qu'on est victime de notre succès. Il y a plus de 1600 vidéos qui ont été envoyées.
Attends, hier, il y en avait 800.
Oui, mais alors, il y a le problème, c'est qu'on pouvait en télécharger via un autre lien. Ah. Et ils ont
donc
fait le compte.
En fait, d'un coup, ça s'est débloqué. En fait, il y en avait plein qui étaient dans les tuyaux. Quoi, les mecs.
Et alors, afin de pouvoir toutes les visionner, on va décaler l'opération d'une semaine.
On a plus le temps du tout. Là.
La réception des 7 finalistes se fera du 4 au 10 février. Voilà, on décale d'une semaine au final, parce qu'il faut
même,
le temps de pouvoir tout visionner.
Vous aurez le temps de faire tout ça d'ici le 4 février.
Que Jérôme Thomas notamment, il en a bouffé. Donc ouais, c'est vraiment.
Non, parce qu'il faut faire ça bien. Hein, faut pas.
Bah, c'est pour ça qu'on décale d'une semaine, Pierre.
Ouais, on veut être sûr que tout le monde soit visionné correctement.
Hier, l'OL s'est imposé 2-1 à Saint-Étienne. Le Lyon qui monte à la 3e place et qui revient à 3 points de la 2e place occupée par le LOSC pour l'instant. Avis tranché de Daniel Riolo.
Très franchement, je me suis en train de m'ennuyer moi-même là.
c'est...
voilà, et là, pour une fois, c'est pas sorti de son contexte. Hein, c'était.
Et alors toi, Daniel, pour toi, voilà, le film va se répéter pour l'OL. T'as aucun doute, les Lyonnais termineront sur le podium à la fin de la saison.
Oui, mais comme quand tu l'as présenté tout à l'heure à la fin de Buzzer Time, mais Stephen Brown a très bien répondu quand il a dit dis donc quelle prise de risque Daniel, si c'est juste pour dire que les Lyonnais vont finir sur le podium. Évidemment, il n'y a pas que ça, et évidemment il n'y a aucune prise de risque à le dire, et c'est même ça le problème en fait. C'est parce que l'OL finalement, quand Jean-Michel Aulas se plaint de la domination du PSG et de situations qui sont un petit peu figées, en fait il ne se rend pas compte que pour lui c'est pareil. Il est figé d'une autre façon. D'abord, de façon générale, il devrait s'occuper de ses affaires principalement, mais en tout cas, sur ce plan-là, une preuve de plus qu'il doit s'occuper de ses affaires, parce que lui aussi, finalement, risque le fameux petit confort dans lequel est le PSG en Ligue 1, où sans arrêt, finalement, on attend la Ligue des Champions pour savoir où en est le PSG, de sa progression, de son histoire, enfin de celle qu'il est en train de se créer là. Lyon, il y a des soubresauts. Ça démarre tout le temps bizarrement. On discute des mois et des semaines sur c'est le bon coach, c'est pas le bon coach, il a fait les bons choix, il a pas fait les bons choix. Et puis au final, bah, le film, on commence à le connaître par cœur. Derrière les soubresauts, on s'agite. Et puis bah, à la fin du film, c'est souvent la même. Il y a un petit élément nouveau quand même cette année, c'est qu'il y a un méga très beau 8e de finale de Ligue des Champions, mais qui devrait quand même sonner la fin de l'histoire dans cette compétition. Et puis après, ils vont enquiller leur petite série de victoires et puis ils termineront 2e. Alors, c'est vrai que quand il y avait Monaco et que Monaco ne se plantait pas comme cette année, et c'est un club en plus qui a des moyens, et c'est pour ça que là c'était souvent en panique, la 2e place, elle était un petit peu plus aléatoire. Mais au final, voilà, sur le podium, il y est, il y sera, parce que il y a trop d'écart avec les autres, que c'est exactement la même chose que Paris champion d'office, bah Lyon podium d'office. Ce sont des situations qui sont figées, qui peuvent présenter un risque de non-progression pour les Lyonnais, exactement comme pour les Parisiens. Et à terme, c'est lui il relève ça comme un problème un peu pour notre Ligue 1, ce manque de concurrence. Mais c'est un peu pareil pour ce qui le concerne, quoi, au final. Sauf qu'il met un peu plus de temps à se mettre en route dans la saison, les Lyonnais. Mais au final, c'est la même chose.
Sur les dix dernières saisons,
on l'a vu hier. Pour conclure, c'était peut-être le dernier match où effectivement Saint-Étienne, s'il gagnait, ça faisait un écart qui rajoutait un peu de suspense. Mais finalement, c'est comme un symbole ce qui s'est passé hier. Et le but marqué à la fin comme ça, voilà, c'est comme si en gros un mec était arrivé et fait les gars, vous êtes bien amusés, vous avez cru un peu qu'il allait se passer un truc et tout. Non, c'est bon, c'est fini. Hein. On est fin janvier, maintenant c'est bon, c'est bouclé, c'est comme d'hab. Lyon sur le podium.
Sur les 10 dernières saisons, Lyon a terminé 7 fois sur le podium. Hein. Donc c'est vrai que c'est une habitude hein,
oui,
finalement.
Oui,
voilà, mais, c'est quelque chose de récurrent.
Fait, sur le fait, résultat,
c'est logique. Ouais.
C'est tout à fait logique et normal quoi. C'est ce que lui reproche, ce que les Lyonnais voient dans le PSG. Ouais. Ils l'ont eux aussi parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que ceux qui suivent quoi.
À la différence près parce que sur les résultats je te rejoins et puis les chiffres sont là, les stats sont là effectivement, ouais. 7 sur 10 sur le podium, ça finit quasiment tout le temps comme ça. Après sur la manière et dans la comparaison avec le Paris Saint-Germain, j'ai plus de mal à la voir parce que le PSG est vraiment dominateur et a énormément progressé dans un domaine, c'est de prendre tous les matchs de la même manière.
Alors là, tu as absolument raison. Et d'ailleurs,
ce qui n'est pas le cas de Lyon, et Lyon se fait peur très souvent jusqu'au bout, ou en tout cas loupe certains matchs.
Oui, mais t'as raison. Mais c'est ce que j'appelle les soubresauts.
C'est moins dans la maîtrise.
Oui, mais c'est ce que j'appelle les soubresauts qui, au final, finissent toujours par être effacés et on oublie souvent la première partie de saison. Voilà. Mais alors là où en revanche t'as raison et on peut s'arrêter un petit moment là-dessus. La différence qu'il y a encore entre le PSG et Lyon, c'est que d'abord Lyon ne devrait pas perdre autant de matchs. Ça c'est une évidence. Et ils devraient surtout faire monter le niveau d'exigence. Parce que s'ils le font monter leur niveau d'exigence, et s'ils arrêtent...
Ils sont pas sur le podium, ils sont deuxième déjà.
Exactement. Si Ola s'arrête de se plaindre en regardant tout le temps dans l'assiette du voisin et du PSG, et qu'il fait monter le niveau d'exigence de son club, non seulement peut-être qu'il sera pas largué comme il l'est par rapport au PSG, qu'il ira peut-être un petit peu plus loin, qu'il perdra moins de matchs, qu'il aurait dans ce championnat, je dis, très facilement 9 points de plus.
Ouais, il sera à 5-6 points du PSG.
Ce qui serait déjà pas la même histoire, s'il avait 9 points de plus, qu'en faisant monter le niveau d'exigence. Bon, alors là, ok, clairement, le Barça, c'est vraiment plus compliqué.
Oui,
c'est vraiment trop compliqué.
Ça, c'est à part, hein.
Mais que, on n'aurait pas trop douté, on n'aurait pas trop d'une flippé jusqu'au dernier match dans cette poule facile d'une qualification en 8e. Et que peut-être, avec un tirage un petit peu meilleur, il pourrait même envisager plus. On en revient tout le temps
au même
truc.
Un âge de progression.
J'ai l'impression que ceux qui regardent Lyon sont plus exigeants que ceux qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est un petit problème. Alors que le PSG, comme tu dis, sur les petits matchs, ils enquillent. Parce que finalement, le 9-0, tout le monde prend ça à la rigolade et tout. Mais mine de rien, il faut quand même aller les coller, les 9 buts. C'est pas rien, non, ça.
Puis, on le voit pas tout à l'heure.
On le voit pas tous les week-ends.
D'ailleurs, je dis rien pour l'instant, mais moi, j'étais au match très proche du terrain et il y a des attitudes.
Il y a quand même un niveau d'exigence. Et pendant que Lyon fait une mi-temps, oui, une mi-temps, non, une mi-temps, pour finalement, comme je disais, faire des soubresauts, des petits sauts de cabri, finalement retomber sur ses pattes sur la fin de la saison, j'aurais envie de leur dire, soyez taquet tout le temps, vous pouvez faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Les Lyonnais peuvent faire beaucoup mieux encore.
Tiens, juste une petite parenthèse sur cette histoire, le 9-0 du Paris Saint-Germain. Depuis que la Ligue 1 s'appelle Ligue 1, c'est-à-dire depuis 2002, c'est arrivé que deux fois qu'il y ait au moins 9 buts dans un match. C'est le fameux 9-0 d'ailleurs du PSG il y a 3 ans face à 3.
Ouais.
Et là, c'est ce 9-0 aussi. Alors, il y a eu d'autres cas, c'était bien, notamment dans les années 30, 50, 60. Mais c'est assez rare, hein, de voir autant de buts dans un match en Ligue 1.
Oui, oui, oui.
Dans les championnats étrangers, quand le dernier joue le premier, hein, c'est pas.
Oui. Les gars, on va accueillir Anthony, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Anthony.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Alors Anthony,
juste un truc, Nico. Oui. Tu dis autant de buts dans un match, mais pour une seule équipe, parce que le 5
oui,
partout
oui,
contre
oui,
Marseille,
tu m'as compris.
5,
oui, oui. Ouais. Je parlais de l'écart entre les deux équipes. Tu as raison.
Pardon. Ah oui, d'accord.
Voilà, mais tu as raison. Soyons précis.
Ouais.
Merci Anthony. Vas-y Anthony, je t'écoute. On t'écoute sur l'OL du coup.
Ouais, vous avez vraiment tout résumé. Enfin, pour moi, Daniel, il a dit une phrase qui résume tout. Et qui est le problème principal de l'OL, c'est quand il a dit que, en fait, on était plus exigeant à l'extérieur du club, nous, les supporters, qu'à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui fait que, au final, on s'en sort, on atteint nos objectifs de faire podium, mais avec une manière qui est horrible par rapport à ce qu'on devrait réaliser. Enfin, et le constat, il est le même depuis des années et des années. Et moi, je trouve que l'équipe, non seulement elle progresse pas, mais elle régresse, parce que elle régresse en même temps que la Ligue 1 régresse. Et c'est pour ça que l'écart, il augmente avec le PSG. Parce que le PSG, ils font une belle saison. C'est magnifique ce qu'ils font. Mais par rapport à ce que Lyon, l'effectif de Lyon, le budget, ce qu'on voit à la concurrence, Lyon devrait pas être je sais même plus combien de points de retard on a.
Tu vois ce que tu viens de dire, Anthony, c'est génial. C'est que, effectivement, je vais t'avouer, je ne le sais pas non plus. Et en fait, voilà, c'est très dur de ne pas le savoir. En fait, on ne sait plus l'écart entre Lyon et Paris.
Le PSG, parce qu'on le PSG compte 53 plus. Points, Lyon 37. Je suis une brêle en maths. Donc
en fait, parce qu'on ne le sait plus, parce qu'on ne s'intéresse plus à cet écart. Ouais. Je trouve ça dingue. Moi, je trouve ça dingue quand même. Je trouve ça dingue. En fait, c'est comme si les positions étaient... On avait complètement figé les positions de tout le monde.
Les positions sont figées. En tout cas, la première. Et derrière, oui, après, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est si quelqu'un arrive à taquiner un peu le PSG, à rester à 4-5 points, ou à être effectivement à 10-12 points.
Qu'il est taquine, ouais, évidemment, il y a ça, mais il y a aussi de pas galérer sur certains matchs, sur la première partie de saison. Il devrait facilement avoir 9 points de plus, il devrait pas être dehors en Coupe de la Ligue.
C'est vrai que 16 points, c'est beaucoup quand même.
C'est énorme, bien sûr.
Premier, troisième, hein.
16 points, mais tu te rends compte, si tu prends, puisque voilà, ça adore parler oseille et faire les comptes, bah, tu regardes dans les différents championnats, est-ce que avec les écarts de budget, si t'as des équipes qui sont aussi loin du premier, non. T'es à 16 points parce qu'en fait, t'as accepté que de toute façon, au mieux, tu ferais 2. Moi, je trouve pas ça normal.
C'est ça. Et puis après, il y a... Enfin, Aulas, moi, il me fait rire quand il parle des budgets, parce que si on compare proportionnellement, on doit avoir 5 points d'avance sur Strasbourg, qui a un budget de 35 millions d'euros.
Ah oui.
Et on a un budget de 300 millions d'euros. Donc il parle après, ça, le discours d'Aulas, c'est un discours pour les jeunes supporters, les gamins de 15 ans qui comprennent rien au foot. Mais c'est du blabla. Honnêtement, j'espère que même lui, il se rend compte qu'il dit des conneries, mais que c'est juste devant la presse, parce que s'il le pense vraiment, là, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on s'en sortira jamais, qu'on va tout le temps être petit bras. Enfin, moi, quand je me rappelle du grand
petit bras que tu vas remplir tes objectifs, en fait. Et ton objectif, mais c'est podium. Et vu que t'as été en 8e de Ligue des Champions, t'es même un petit peu au-dessus dans son esprit.
Ouais, mais le pire, c'est que c'est ça. Et c'est horrible, parce que, bon, après, la concurrence, c'était pas la même en Ligue 1, mais quand t'as été champion avec des David Linares, des Jean-Marc Chenelet, des Florent Laville, et que il y avait, enfin, à cette époque-là, il y avait un vrai état d'esprit, et cet état d'esprit, il est mort dans le club. Il est mort. C'est-à-dire qu'on a, moi, une fois, j'étais passé dans l'after, c'était après un match à Montpellier, on avait perdu en Coupe de France il y a un an et demi, et j'avais dit, pour moi, c'était une équipe de quartier. Et je le pense encore plus, et on est en train de devenir un club de quartier qui a tellement de talent par rapport au reste que, allez, c'est bon, on s'en fout. De toute façon, on va s'en sortir. Et ça se passe tout le temps. Et en fait, moi, j'ai l'impression que limite, ce qu'il nous faudrait, c'est une année faire une saison de merde, mais vraiment de merde, finir 8e, avoir rien, qu'on tombe dans un vrai niveau d'urgence, et que là, les mecs se disent, ouais, bon, là, ouais, faut qu'on comprenne que notre façon de voir petit bras, de se fixer des petits objectifs, faut qu'on arrête et qu'on redevienne ambitieux, parce que le problème, il est là, c'est qu'on n'est plus ambitieux dans le jeu, on n'est plus ambitieux dans nos objectifs, et on n'est plus ambitieux dans notre manière. Donc, tout découle de ça. Ouais. Et quand je vois un gars comme Greg Coupé, parce qu'on me dit, des fois on me dit oui, mais Genesio, c'est pas de sa faute si l'état d'esprit des joueurs est pourri. Ben moi, j'ai le contre-exemple parfait. Quand on parle d'Anthony Lopez, il y a 2 ans, avant que ça soit Greg Coupé, il avait un entraîneur qui était Joël Batz, qui était quand même un peu foufou. On se rappelle de l'écharpe à Geoffroy Guichard qui avait mis le feu, tout ça. On lui met un entraîneur qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Ben Lopez, il devient monstrueux, et dans l'attitude, il est bien meilleur. Donc ça veut dire que il y a vraiment la place de faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas ce désir de vouloir le faire.
Anthony, moi, juste sur le cas précis que tu cites, pour bien connaître Joe Batz, honnêtement, c'est tout sauf un foufou.
Ouais, mais il parle de l'attitude qu'il avait eue, notamment
peut-être une fois, mais le résumé à cause de cette anecdote à quelqu'un de foufou, ouais. Je te jure, c'est pas du tout ça.
Les deux sont extrêmement exigeants, que ce soit Batz et Greg maintenant, et je pense que
c'est possible. On en a aussi parlé.
La façon dont Lopez progresse toujours, je pense que c'est bien, et Greg le fait progresser, il le pousse encore
très certainement. Que Greg le fait progresser, mais il a aussi énormément progressé avec Joël Batz depuis qu'il joue. Et on l'avait tout à l'heure dans Breaking Foot au téléphone, et d'ailleurs il l'a dit, les deux l'ont fait progresser, et ce qui a changé surtout, c'est son attitude à lui, où il se concentre sur des énergies positives maintenant pendant les matchs, et pas s'éparpiller.
Merci Anthony d'avoir été avec nous, bonne soirée à toi Anthony. Tiens, il y a Biox et Gizmo qui nous précisent en plus sur le hashtag RMC Live, il y a 16 points d'avance sur le PSG, sur l'Olympique Lyonnais, et le PSG compte 2 matchs en moins en plus.
Ouais, ils ont 19.
Donc il y a aussi ça à rajouter également, il y a ces fameux matchs en moins également. Petit détour par Charletti, le PFC joue face au stade Brestois, Jordan Olivier, c'est de la Ligue 2, il reste un quart d'heure à jouer.
On est entré effectivement dans le dernier quart d'heure, Nicolas. 77 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Stade Brestois, un but de Chardonnay. Les Parisiens qui ont du mal à se créer des occasions. C'est assez pauvre offensivement, du coup, Mecha Bazdarevic a fait rentrer Dylan Saint-Louis, mais ça ne change rien pour le moment. Les Parisiens sont toujours menés 1-0. Il reste 12 minutes
donc,
dans
en fait, le
temps.
C'est le championnat des prénoms américains, alors. De Dylan, l'autre.
On pourrait monter une équipe NBA,
c'est
effectivement.
C'est la NBA, quoi, là, ou c'est la Ligue 2, là,
c'est la NBA, ouais, c'est Dylan, la NBA.
Alors, rassure-toi.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On va avoir un prénom bien français du côté du Stade Océan. On va retrouver Christophe Lécuyer, le Havre Red Star, Christophe. Et là aussi, il y a un buteur. Est-ce qu'on a un prénom américain? La réponse est non.
Celui qui porte bien son nom avec cette température de 0 degré, c'est Alexandre Bonnet qui a ouvert le score pour les Havrais.
Ah, après, ça c'est quoi ça?
Ah, vrai.
Joueur Kébari.
Encore?
Mais bien sûr, Alex.
Non, mais vous avez toute la Ligue 2, les mecs, ou quoi?
Non, pas tout, juste les buteurs.
Ah, c'est le fidèle du club, en plus. Hein. C'est le joueur emblématique de cette équipe havraise, Alexandre Bonnet, qui a ouvert le score après 54 minutes, parfaitement servi par Kadewere tout à l'heure. Alexandre Bonnet, qui a même failli doubler le score il y a quelques minutes de cela. Là, encore une fois, bien servi sur le côté droit. Il lui a pas manqué grand-chose pour venir tromper Renaud, le portier de cette équipe du Red Star, qui se retrouve donc mené ici au Stade Océane. Il reste 25 minutes à jouer dans cette partie. 1-0 pour le Havre.
Championnat du monde de handball également. Sachez que l'Allemagne vient de s'imposer face à la Croatie 22-21. Et grâce à cette victoire, le pays hôte de ce championnat du monde, eh bien, qualifie aussi la France pour les demi-finales. Ce sera vendredi.
C'est une belle victoire, ça, l'Allemagne contre la Croatie.
Ouais. 22-21. Ouais. Dans quelques instants, ton avis tranché, mon cher Pierre Ducrot, qui concerne Adrien Rabiot, le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain d'ailleurs. Plus généralement, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Dans 20 minutes, il y aura les drôles de dames qui seront également avec nous. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo et de Pierre Ducrot, on vient de faire la vie tranchée de Daniel, qui concernait l'Olympique Lyonnais, qui terminera selon lui deuxième, même pas sur le podium, deuxième carrément, non? Deuxième?
Ah non, mais mon avis était un petit peu plus fourni qu'une position en classement.
D'accord, très bien. Ce sera le podium, nous a dit Daniel. On passe à la vie tranchée de Pierre Ducrot.
Je suis d'accord avec toi, ça doit être deuxième normalement pour lui. C'est même pas le podium.
Jingle.
Tout le monde est un peu plus vulgaire. Je crois que c'est à cause de Pierre Ducrot, c'est le pire, que j'aime beaucoup en tant que commentateur. Et au lieu de dire qu'on s'en mord les machins, on peut se dire qu'on s'en mord les doigts.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les...
Ça m'a échappé une fois.
Oh là là, oui, une fois, oui.
J'espère qu'il va bien.
Alors, vous le savez.
Je sais plus comment il s'appelle. Guillaume, je crois, non?
Je sais pas.
Auditeur.
Marco Verratti est sorti blessé face à Guingamp ce week-end lors du fameux 9-0 de la victoire du Paris Saint-Germain. L'Italien qui est touché à la cheville. Alors, on devrait connaître, dans les prochaines heures, les prochains jours, la période d'indisponibilité de notre ami Verratti. En parallèle, Adrien Rabiot a été renvoyé avec la réserve. Alors, ça, ce sont les infos du jour. Le joueur, avec l'aide de l'UNFP, le syndicat des joueurs, a saisi la commission juridique de la Ligue en exposant sa situation et en demandant sa réintégration immédiate à l'équipe première. Alors le fait est qu'il y a des infos qui sortent également, il y a des rumeurs qui commencent à brusser, comme quoi, eh bien, Thomas Tuchel voudrait réintégrer Adrien Rabiot à l'équipe première avec cette fameuse justement blessure de Marco Verratti. Et toi, Pierre, tu dis non.
T'as tout dit. Blessure de Marco Verratti. Alors moi j'ai envie de te dire, peu importe, il va rester arrêté deux semaines et demie. Allez, au mieux il va revenir pour le match de Bordeaux 3 jours avant le match de Ligue des Champions. Il va devoir jouer avec un strap, ça va être un plat le machin. Pour moi il risque très fortement de pas être prêt. Il y a l'échéance Ligue des Champions donc qui arrive tranquillement mais sûrement. Il y a l'air de rien les 4-5 dossiers de numéro 6-8 dont on parle depuis maintenant le début du mercato, voire un petit peu avant, qui n'ont pas l'air d'avancer. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas abouti. On a Thomas Tuchel qui commence à peut-être parler de réintégrer Adrien Rabiot. Alors même si lui, il est dans son rôle, j'ai envie de dire purement sportif, ou en tout cas un intérêt purement sportif de terrain. Je pense qu'il fait pas quand même complètement abstraction de tout le reste parce qu'il a fait énormément de bonnes choses déjà en 7-8 mois sur le plan mental de ce groupe. Il est en train de construire un groupe. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage en ce moment de ce groupe, moi je trouve, par rapport au groupe précédent dans les dernières saisons. Donc j'ai pas envie de croire que Thomas Tuchel va rester uniquement concerné sur l'aspect sportif et va aussi prendre en compte tout un tas d'autres aspects. Et puis il y a Adrien Rabiot, tu l'as dit aujourd'hui, qui a fait constater et qui veut réintégrer, ou en tout cas qui veut avoir des conditions d'entraînement identiques à tous les autres professionnels, ce à quoi il a le droit. Il fait la démarche.
Oui, il fait jouer la charte là.
Il a raison, c'est juridique, c'est du factuel. pourquoi pas, le club va être obligé de le réintégrer ou en tout cas de lui offrir des conditions identiques. Attention, c'est pas exactement pareil. Le joueur est pas forcément obligé de s'entraîner avec le groupe pro tous les jours. Voilà, du moment qu'il a les mêmes conditions d'entraînement. Tout ça mêlé me fait dire que peut-être une fois de plus le Paris Saint-Germain pourrait faire un petit rétro-pédalage dans ce qu'il a entamé, c'est-à-dire pour une fois faire comprendre à tout le monde via un exemple, celui d'Adrien Rabiot, que à un moment donné on fait plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand avec l'institution, avec le PSG, avec le club, et que c'est le club à un moment donné qui décide. Alors on revient pas sur le problème Adrien Rabiot, comment on en est arrivé là, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord sur l'attitude du club, sur l'attitude du joueur à un moment donné depuis 2-3 saisons les uns avec les autres. Ça, c'est leur tambouille. On en est là aujourd'hui. Le club a pris une posture. Et moi, j'ai très, très envie que le club garde cette posture. Qu'on aille, quand on est le Paris Saint-Germain, qu'on aille jouer ces deux matchs contre Manchester avec les forces vives en présence en ce moment. Et des garçons qui sont exemplaires sur tous les points, sportivement, mentalement, etc., etc. Parce qu'en ce moment, je le répète, et on parlera tout à l'heure du 9-0, mais j'ai vu des vraies attitudes de groupe, même dans un match comme ça où tu marques énormément de buts. Et j'ai pas envie que le Paris Saint-Germain puisse laisser penser une nouvelle fois qu'ils ont pas compris, qu'ils ont pas retenu les leçons du passé et réintègre un Adrien Rabiot alors qu'ils sont partis sur complètement autre chose. Voilà, c'est un avis très tranché et très arrêté. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas du tout d'accord, je pense.
Un avis que tu développes en plus, alors en plein dans ce mercato et dans ces interrogations de la venue possible prochaine d'un milieu de terrain, voire deux d'ailleurs, peut-être au Paris Saint-Germain.
Voire pas du tout. On sait jamais.
Voire pas
ça,
du tout.
Ça peut être ça aussi.
Daniel.
Ah bah, j'ai pas grand chose à redire à l'avis de Pierre, parce que évidemment je partage à 100% son avis. Je vais juste essayer de compléter en disant ne pas reproduire les erreurs du passé. Il y a une erreur qui est absolument concrète, qui, si je suis Nasser Al-Khelaïfi, ça me sert comme
Serge Aurier.
C'est même plus un exemple, quoi. C'est évidemment l'affaire Aurier. La grotesque attitude qui avait consisté à aller le voir quand il jouait avec la réserve pour finalement...
Ah, puis à le remettre en Ligue des Champions contre City.
Finalement se dépêcher parce qu'il y avait panique à bord sur le poste d'arrière droit pour le remettre contre Manchester City. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Le club est passé complètement au travers. Aurier est passé complètement au travers des deux matchs. C'est exactement ce qu'il pourrait se passer si jamais Rabiot refoutait les pieds en équipe première.
Et t'as raison, parce que j'avais rajouté...
C'est pour ça que je n'y crois pas.
Et tu as raison.
Je suis convaincu.
Tu veux dire qu'il y a un précédent, quoi.
Ça leur a servi. Qu'il ne reviendra pas.
Il y a ça, et t'as raison, parce que tu vois, je l'avais rajouté, j'ai oublié de le dire, mais j'avais rajouté que même s'il y avait une possibilité d'eux et que tout le monde avait envie de le faire, ça ne marchera même pas sportivement, moi, je pense. C'est qu'Adrien Rabiot ne sera plus capable de faire deux gros matchs contre Manchester United.
Je fais c'est tout. Je mets Daniel Vess, je mets Draxler, je mets Marquinhos.
Tu mets Draxler et Marquinhos.
Je mets ma grand-mère, je mets non, qui tu veux, mais jamais je rappellerai
Daniel.
La grand-mère de Nico. Tout le monde, quoi.
C'est sensible, les grands-mères en ce moment. Faut pas parler des grands-mères en ce moment.
Pourquoi?
Parce que Thierry,
il a félicité ta grand-mère. Donc, jamais en équipe.
C'est vrai qu'elle a pas joué avec les champions.
PSG, ah
bon, je sais pas, peut-être.
Hein. Ah bon, elle a pas joué la Ligue des Champions avant.
Pas de football, mais.
T'as mis Titu au PSG,
c'est vrai en plus.
C'est vrai.
Ça s'appelle Grassinda.
On dit pas Abuela.
Avo Grassinda, on dit Avo.
Avo. Ah, comment tu dis? Je disais Avo, moi.
Avo, c'est le grand-père. Avo, c'est la grand-mère. Mais en fait, dans le Nord, on dit Bon. Voilà.
Bon.
Salut.
Bon.
Bon alors. C'est tellement mignon.
Bon alors.
C'est tellement affectueux.
Voilà. Bon alors. Ceci dit, il s'est passé tellement de trucs. Pour le joueur comme pour le club, que ce serait effectivement faire une grosse.
J'ai rien à ajouter, ton avis impeccable.
Accueillons Johan, supporter du Paris Saint-Germain, qui ne sera pas forcément d'accord avec vous d'ailleurs, les gars. Salut Johan.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs.
Salut Johan.
Alors Johan, je crois que tu n'es pas vraiment d'accord avec Pierre.
Donc en fait, Johan va venir pour exprimer un avis qui, on le sait à l'avance, sera faux.
Ouais, voilà. C'est le sien, Daniel, il a le droit.
Oui, mais il a le droit. Il est faux.
On va essayer de lui.
Vas-y, Johan, vas-y.
Non, mais c'est ni pour ni contre, je comprends ce que dit Pierre et on ne peut que le rejoindre, mais. Moi, ce que je voulais plutôt soulever ici, c'est juste que je trouve que quand ils l'ont viré de l'effectif Rabiot, c'était un peu précipité et on espérait quand même qu'il le fasse en ayant déjà une carte, un petit joker dans la manche, quoi, en ayant déjà signé un mec pour le mercato pour être sûr, en cas de blessure de quelqu'un, de pas se retrouver dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et là, la seule chose qu'on peut dire, c'est effectivement, est-ce qu'une connerie va rattraper une autre connerie? Franchement, pas sûr. C'est sûr que de l'extérieur, intégrer Rabiot, ça a l'air débile. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas Verratti contre Manchester, vous allez mettre qui? Il va faire quoi, Turel? Donc, effectivement, il se retrouve.
Il va mettre Draxler et Marquinhos, et ça ira très bien.
Ouais, tu vas jouer, Johan. Tu vas jouer
Draxler, trois derniers matchs. Mieux que Rabiot.
Non, mais tu vas jouer comme contre l'Étoile Rouge, comme contre Naples et comme contre Liverpool, finalement.
Ouais, non, mais d'accord.
Ou Adrien Rabiot, je sais
pas. Eh, les gars, vous arrêtez pas de répéter à longueur de temps que les matchs de poule, c'est pas la même chose que les matchs à coupe, à élimination directe, on le sait tous. Et Manchester, dans un match
enfin bon, c'est pas parce que tu vas voir Rabiot que le match aller-retour sera meilleur. À quel moment Rabiot t'a montré qu'il était indispensable sur terre?
Moi, Johan,
c'est pas ce que je dis. Vous êtes braqué sur votre truc. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'on se retrouve exactement comme chaque année. C'est-à-dire, on arrive en février, on n'a pas tout le monde, on a géré.
Ah oui, ça c'est un constat. Oui, ça c'est sûr.
Et c'est ça le truc. Et maintenant, dire oui, Rabiot, je veux l'intégrer, je veux pas l'intégrer. Au final. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils se retrouvent là?
Alors moi, Johan,
tu vas me dire Draxler, mais franchement, en 6, c'est dans les dispositions mentales.
Mais non, c'est Marquinhos le 6. Rabiot a jamais été 6. Rabiot, on se demande même d'accord, ce qu'il a d'accord. été dans cette équipe. Mais putain, j'ai l'impression qu'on parle d'un cador. On parle d'un joueur qui a fait deux bons matchs là où dans Johan... toute sa vie au PSG. Faut se calmer, putain.
Là où Johan a pas tort, c'est que.
Mais à quel moment il est indispensable?
En même temps, les mecs.
Là où Johan a pas tort, c'est qu'en ce moment, et je pense qu'on jouera comme ça contre Manchester aussi, c'est que tu joues à 2-6. Tu joues plus avec un triangle au milieu, tu joues à 2-6.
Mais je pense même que c'est la meilleure solution.
Draxler jouera à ce poste-là.
C'est la meilleure solution.
Là où je te rejoins pas, moi, Johan.
Donc Draxler à la place de Verratti, quoi.
Ouais, mais moi, exactement. Là où je te rejoins pas, Johan, c'est deux choses.
Si je peux terminer ma phrase.
Alors vas-y, Johan,
viens. Vous dites que dans le rôle de Verratti, avec Marquinhos qui descend et qui monte, c'est ça, dans le 3-3, 4-3.
Non, t'es pas obligé de lui donner le rôle hybride à Marquinhos. Il a joué qu'un match comme ça. Les deux autres matchs, il a joué au milieu.
Non, il a joué tous les matchs, il est ligué comme ça. Depuis qu'on joue contre les.
Non, je te jure, il a joué une fois dans un rôle hybride comme ça, à passer de derrière au milieu, mais les deux autres matchs, il était au milieu tout le temps.
Même tu vas me dire que t'enlèves Verratti, entre Draxler et un Rabiot, je dirais, dans des dispositions mentales normales, c'est genre, c'est Draxler.
Ah oui, mais t'es pas dans des dispositions
mentales. Draxler, il est largement meilleur que Rabiot.
Déjà. Vous en savez rien.
Ah si, tu le sais, mais tu as vu les trois derniers mois d'Adrien Rabiot. Même avant ce qui s'est passé.
La question, elle est simple. Est-ce que vous me dites que voilà, Draxler c'est mieux que Rabiot.
Ah bah moi je te le dis,
l'argent, oui.
Attends, moi Johan, la question que j'ai envie
de poser.
Johan, moi j'ai une question à te poser, Johan. J'ai une question. La question surtout que j'ai envie de te poser, c'est toi, est-ce que même si, considérons, comme dit contrairement à ce que dit Daniel, que Rabiot est un cador ou du moins un grand joueur du PSG, est-ce que toi finalement tu lui pardonnes tout? Est-ce que toi tu pars du principe que une décision a été prise, il y a une décision a été prise, finalement tu reviens en arrière. Enfin tu vois, alors c'est autre chose que le cas Aurier, parce que Aurier il s'est exposé sur les réseaux sociaux.
Mais ça veut dire qu'il désavoue.
Aurier avait insulté l'entraîneur.
Oui, mais là tu le désavoues quand même.
Les raisons sont pas les mêmes.
Mais tu désavoues, c'est ça que je veux dire, Johan.
Non, mais moi ce que je veux vous dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve dans la merde maintenant. Donc faut bien se calmer.
Oui, mais t'as pris une décision, faut l'assumer, Johan. C'est ça.
Non, mais oui, mais faut l'assumer. Mais très bien, mais je suis d'accord avec vous.
Mais c'est pas Rabiot qui va te sortir de la merde dans laquelle tu t'es mis, voyons.
Mais c'est pas ce que
ça y est, tu nous l'as énervé.
Mais c'est pas Rabiot qui va te sortir de la merde. Je suis d'accord avec toi, Romain, Johan, quand tu dis que t'es dans la merde. Évidemment, je suis d'accord avec toi, t'es dans la merde. Mais si tu crois que c'est Rabiot qui va te sortir de la merde, mais t'as tout faux.
C'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça.
Eh ben alors qu'est-ce que tu dis? Si tu dis que Rabiot va pas te sortir de la merde, ça veut dire qu'il sert à rien. Eh ben laisse-le où il est, il sert à rien.
Okay. Non, mais d'accord, ok, très bien. Non, moi je te dis juste que peut-être du point de vue des dirigeants, à un moment donné, et du point de vue de l'entraîneur, à un moment donné, en ayant une discussion avec Rabiot qui a aussi un cerveau, même si c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas pour X raisons, mais qui a aussi un cerveau, ils peuvent aussi réussir à mettre une dynamique en se disant ok. Tu pour ces matchs-là, on a besoin de lui. Parce qu'aujourd'hui, dans l'effectif, c'est à la base de l'année, c'était un titulaire.
Mais tu sors pas un mec comme ça, qui a pas été dans le groupe depuis 3 mois. Tu lui dis de revenir, tu lui dis de jouer à Old Trafford. Mais je sais même pas s'il aurait objectivement sa place de titulaire.
On sait même pas si demain
il reprend l'entraînement avec l'idée qu'il intègre le groupe. Je sais même pas si en 3 semaines il arrive à être titulaire dans cette équipe. Ça fait 4 mois qu'il joue plus.
Pierre, t'allais dire, vas-y Pierre.
Alors moi du coup, comme je vous ai laissé parler, ça remonte, mais c'était sur les matchs de poule. Johan, je pouvais te rejoindre en disant que effectivement les matchs de poule sont jamais les matchs à confrontation et élimination directe. Sauf que si tu regardes bien les 3 derniers matchs de poule qu'ont eu à faire le Paris Saint-Germain, c'était des matchs cruciaux et où si t'en perdais un, t'étais quasiment éliminé. Donc ça y ressemblait grandement. Et Draxler dans ces matchs-là a été très performant. Et aujourd'hui,
Honnêtement, j'ai rien personnellement contre Rabiot. Je m'en fous. Il a sa vie, j'ai la mienne, et moi ça change rien la mienne que Rabiot soit intégré ou pas réintégré. On en parle et on prend un peu de recul. Honnêtement, aujourd'hui, je te jure que dans un groupe pro comme et celui du Paris Saint-Germain en train de se former avec des choses qui se passent dans ce groupe, avec un coach qui a compris certaines choses sur le plan des relations entre joueurs, coach, ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. On se rappelle du match contre Marseille avec le retard de Kylian Mbappé et d'Adrien Rabiot, le message fort envoyé par ce coach. On a sans arrêt des signaux envoyés par ce coach qui essaye de rattraper un peu le retard qu'a pris cette équipe sur ce plan-là. Le message qui a aujourd'hui été envoyé par les dirigeants, je te jure, si tu fais marche arrière, c'est pas que le Carabio, c'est que tu remets un tas de choses en jeu en fait.
Eh merci, oui. En tout cas, Johan, d'avoir été avec nous. Tiens, on va faire un petit tour par Charletti. Jordan Olivier, le PFC joue face à Brest. Tiens, ça vient de se terminer d'ailleurs, Jordan.
C'est la fin de la rencontre à l'instant. Victoire du Stade Brestois, 1-0, un but de Chardonnay. Les Bretons confortent leur deuxième place. Ils reviennent même à 2 points du leader Messin. En revanche, fin de série pour le Paris FC qui restait sur 6 sans défaite en Ligue 2. Il rate l'occasion de monter sur le podium et reste à la 5e place.
Merci beaucoup, Jordan. Jordan, c'est plus dur pour le PFC quand ils sont menés au score pour faire le jeu. Ils adorent attendre et contrer.
Brest revient à 2 de Metz, mais Metz compte un match en moins par rapport à Brest. Hein, sachez-le également. Et il reste un peu moins de 10 minutes à jouer entre Le Havre et le Red Star, Christophe Lécuyer.
Ouais, toujours 1-0 pour Le Havre avec un bon coup franc là pour le Red Star. On est à 30 mètres des débuts de Thuram. C'est mis dans la surface de réparation. C'est renvoyé par la défense à Brest. Toujours 1-0 pour les Normands. Diallo, tout à l'heure, s'est procuré une belle occasion d'égaliser pour le Red Star. On a opéré les 3 changements du côté de Farouk et Adzibedjik. Et on essaie évidemment de pousser pour essayer d'arracher une égalisation qui serait pas finalement si imméritée que ça pour l'équipe parisienne. Toujours 1-0 ici à 6 minutes maintenant de la fin du match.
Merci beaucoup Christophe. Tiens, je vous donne les résultats également des 8e de finale de la Coupe d'Asie des Nations. Les matchs du jour, le Japon a battu l'Arabie Saoudite 1-0, l'Australie s'est qualifiée au tir au but face à l'Ouzbékistan, les Émirats Arabes Unis sont qualifiés aussi au tir au but face au Kyrgyzstan. On aura en quart de finale Chine-Iran, Vietnam-Japon et Australie-Émirats Arabes Unis.
J'ai pas crié mais j'ai aussi un buteur là-dedans, j'en dis pas plus.
Où ça? L'Australie. Ouais, t'as choisi le bon pays.
Il me regarde et me dit, mais comment il a un joueur? Un grec australien avec qui j'ai fini ma carrière en Grèce.
Grosse communauté grecque d'ailleurs en Australie.
Qui était tout jeune en Grèce et depuis on s'en occupe, ouais.
À Melbourne, principalement.
Ouais. Oui, Melbourne, ouais, effectivement.
Là où brille en ce moment Stéphanos.
Il y a beaucoup de.
Tsitsipas.
Mais ton joueur préféré, ça reste?
Mitroglou.
Grec? Bah.
Costas.
Allez, dans quelques instants, on sera avec Julien Laurence. On va parler d'Angleterre, bien entendu. Il y avait notamment un derby plutôt sympa entre Arsenal et Chelsea, ouais, avec un Maurizio Sarri ultra vénère en VO, italien. En on aura même Simone Rovera pour nous traduire le sono incazzato.
Tu l'as entendu en italien, Daniel?
Inca.
Incazzato.
Inca.
Inca.
Oui, avec un C, pas avec un G. Inca.
Inca when?
Inca.
Incazzato.
Inca.
Non? Incazzato.
Micardi.
Incazzato.
Incazzato. Incazzato.
Attends, il y a remis un G.
Incazzato.
Avec un C,
comme Icardi. Incazzato.
Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon.
Non. Après, bon, allez, c'est on vient tout de suite avec l'air du chrono d'Eniro. Je vais bosser moi un Incazzato.
Incazzato.
RMC Football Show. L'afterfoot. Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Pierre Ducrot, Simone Rovera nous a rejoint. Ciao Simone.
Ciao, buonasera,
bonsoir. Comment va Simone?
Tout bien. C'est un peu étrange, je suis de tes côtés.
Il fait chaud là, c'est vrai.
On change pas de côté.
Le col roulé.
J'ai changé
le col roulato.
Il col roulato.
Comment on dit le col roulé?
Non mais c'est un col roulé, c'est pas vraiment un col roulé, c'est un sous-pull. Parce qu'il est pas en laine.
Ouais, c'est très fin. C'est quoi? C'est de l'acrylique, ça?
Non, c'est un soupule, tu sais, pour aller courir.
C'est un soupule,
ouais, ouais.
Non, ça fait très. Ça fait très.
Simonet, t'as l'impression que c'est fait griller, ouais.
Non, bon, ça, okay. Pierre, pour les connaisseurs, ça fait très acteur porno des 70s.
C'est pas faux. Ah non, mais c'est pas faux.
Mais gêné pour ça.
Même un peu après, moi, je vois très bien.
C'était les années d'or, là, donc.
Les années d'or du porno, les années 70.
Ticholine, tout ça, quoi.
Ouais, c'est pas faux.
Rien à voir.
80, c'est blasé un peu plus
tard. En regardant comme ça, c'est pas faux.
Rien, je pensais que t'étais un peu connaisseur.
Non, c'est pas du tout mon délire. Alors, moi, le porno, c'est pas du tout mon truc. On a que Julien Laurence.
Les années 70, c'est un âge d'or. Il y a 2-3 références à avoir.
Ouais, enfin, c'est vieux, 70, c'était même pas né, Daniel.
Après, il y a eu une référence à avoir après, quand même. Non?
Non, après, j'en ai plus. Alors, j'ai lâché.
Bah, si, un Rocco Siffredi, tout le monde connaît.
Ah, oui,
c'est plus tard.
Mais c'est au-delà du porno.
Bah, il avait un peu des soupules comme ça, je suis désolé.
Oui, voilà. Mais je pense que c'est un hommage. C'est un hommage, Simone.
On parlera tout à l'heure, de Rocco et de la série, bien entendu. Julien Laurence est avec nous.
Il y a que par le soupule qui veut lui rendre hommage.
Ah bah ça, attends, moi j'en sais rien.
Bah là,
Daniel, tu le sais ça, toi?
Je sais pas, comment peut-être.
Ah non, on peut pas savoir.
Il sait.
Quand moi, je le vois sur la tête, moi.
Ah oui? Alors, tu vois, je vais plus te regarder pareil. T'es là, Julien?
Je suis là, salut à tous.
Tu voulais rajouter un truc, salut, peut-être, Julien. Non, Julien, à cette conversation?
Non, je trouve ça très intéressant. Je sais pas si Rocco et Simonet ont d'autres points en commun que l'école roulée, mais. C'était intéressant.
Voilà. Merci Julien. Quelques résultats de la 23e journée de Première Ligue. Arsenal qui a battu Chelsea 2-0. Liverpool a battu Palace 4-3. Victoire de City 3-0 à Huddersfield. Fulham s'est incliné à domicile 2-1 face à Tottenham. Et puis Manchester United a battu Brighton 2-1. Jingle, Julien Laurence quand même, les mecs. Ah bon, on l'a pas. Ah bon,
toujours pas.
Ça c'est fait. Voilà. On va parler du derby entre Arsenal et Chelsea. Les buteurs, Lacazette.
Non, Arsenal Chelsea n'est pas le derby. Non, pitié, non.
Bon, ok. On va parler du match.
Soyons pointus.
Voilà. On parle de Saint-Etienne-Lyon comme un derby, mais pas Arsenal-Chelsea.
Arsenal,
on va parler du duel du choc.
Oui, mais pas Arsenal-Chelsea.
Entre Arsenal et Chelsea, victoire 2-0, Lacazette et Koscielny qui ont marqué. Alors, on a vu un Sarri très très énervé en fin de match, Julien. Il a même fait d'ailleurs la conf d'après-match en italien pour être bien compris par ses joueurs.
Ouais, c'est vrai, on l'a vu très frustré déjà sur le banc de touche, quasiment au début, à la fin du match. Tu sentais bien que ces joueurs allaient passer un mauvais quart d'heure une fois le match terminé, vu la performance collective et individuelle que les joueurs de Chelsea ont affiché à l'Emirates samedi après-midi. Mais on était quand même loin d'imaginer qu'on allait voir un Sarri comme ça en conférence de presse. Mais c'est bon, tu as raison, il a dit, je vais la faire en italien parce que je veux être très clair, je veux pas me tromper dans mes mots en anglais, dans mon vocabulaire. Comme ça, je veux bien que tout le monde comprenne. Et c'est peut-être là d'ailleurs son erreur. Il a aussi dit, je veux envoyer un message à mes joueurs à travers ma conférence de presse maintenant. Et c'est pourquoi, on y reviendra peut-être après, il a été pas mal critiqué en Angleterre depuis.
Ah, on a perdu le...
Non, il est toujours là, je ne
l'entends pas.
Comment ça?
C'est Hélas qui lui a coupé la parole.
Non, j'ai rien dit.
Ah, je croyais que tu avais appuyé.
Ah, non, pas du tout.
Il est là, non, mais j'ai pas entendu. Il a été pas mal critiqué, quoi. J'ai pas entendu la suite, pardon.
Pour le fait qu'il ait dit lors de la conférence de presse qu'il voulait faire passer un message à ses joueurs à travers sa conférence de presse.
Ouais.
Et les gens de l'Angleterre ont dit c'est pas par médias interposés qu'il aurait dû le faire, mais plus face à ses joueurs directement. Si tu veux, t'as envoyé peut-être pas forcément le message qu'il aurait voulu à ses joueurs
mais Julien,
par médias interposés.
Dans cette conf de presse, il dit si j'ai bien compris, en tout cas si la trad était bonne, il dit que justement c'est pas la première fois que ça arrive, que contre Tottenham ça a été le même problème, c'était une défaillance mentale et que ce problème-là n'a pas été résolu après les avoir avertis et donc c'est pour ça qu'il veut lancer encore une fois un message aux joueurs. Donc
voilà.
Moi, j'ai pas trouvé ça fou qu'il le fasse aussi publiquement.
Mais
quoi.
C'est Julien, s'il te plaît, sur le fond. Donc c'est un match intéressant. Pourquoi? D'abord, deux clubs qui ont changé d'entraîneur cet été, deux mecs qui sont arrivés, et j'ai eu le sentiment que Sarri, quand il a débarqué, ça s'est, on va dire, plutôt très bien passé. La façon dont il a pris l'équipe, beaucoup de gens en Angleterre. Tu m'arrêtes quand je dis une connerie, c'est mon impression vue d'ici.
Bon,
que, en gros, il a séduit pas mal de gens. Que on a peut-être parlé effectivement du repositionnement de Kanté, mais bon, Jorginho faisait des bons matchs et tout ça. Et je me demande si maintenant, là, on est à mi-saison, si la tendance va pas un petit peu se modifier autour de Sarri et de son travail. D'abord, Jorginho. Moi, je trouve qu'il est pas toujours dingue. Donc, peut-être que le problème du positionnement de Kanté va se reposer.
Et de Hazard aussi. Hein.
J'allais enchaîner, bien joué Nico. Le positionnement de Hazard, mais là, ça nous amène peut-être au vrai problème de Chelsea. C'est que c'est pas une équipe qui est, au point de vue des individualités, extraordinaire. Le fait que Hazard joue là, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un vrai bon neuf dans cette équipe.
Pas celui qui veut, du moins.
Leur défense, je la trouve pas dingue. Et là, je fais le parallèle, et après je te laisserai Julien parler. De la même façon, Arsenal, Emery a beaucoup tâtonné. À un moment, on s'est dit, tiens, c'est bien ce qu'il fait. Puis là, récemment, il avait pris 3-4 claques dans la tronche. On a dit, bon, bah finalement, Emery, hop. Là, avec ce match-là, il va à nouveau respirer. Et quand je regarde Arsenal et que j'entends beaucoup de gens critiquer Arsenal, j'ai dit, mais est-ce que vous avez regardé l'équipe d'Arsenal? Les individualités.
Ah, c'est pas...
C'est pas une équipe de vedettes,
ça peut pas aller chercher...
C'est pas une équipe de stars, hein.
City, etc. Loin de là. Enfin, c'est clair.
Ouais, Julien, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était mon impression sur ces deux équipes-là.
Non, t'as raison. On a beaucoup, c'est vrai, et à juste titre en début de saison, applaudi le travail avec très peu finalement de temps pendant l'été, puisqu'il est arrivé assez tard. La préparation était déjà commencée. Il n'a pas pu avoir le recrutement qu'il aurait souhaité parce que justement, il était arrivé assez tard à Chelsea. Ça s'est c'est vraiment ralenti. T'as senti que dans le jeu, il fatiguait. T'as senti que tactiquement, ils n'avaient pas progressé de la même manière entre, on va dire, le milieu, début du mois de novembre jusqu'à maintenant, comparé au mois d'août jusqu'au mois de novembre. Et que là, la manière dont il a réagi, parce qu'après moi, j'ai Tottenham, et t'as raison, Pierre, hein, c'est déjà le même problème, au niveau de la motivation, au niveau de l'intensité du jeu, au niveau du déchet, mais des attitudes personnelles de ses joueurs. Il n'avait pas pété un plomb comme il a pété un plomb samedi. Le samedi, il était vraiment vénère.
Ouais, mais est-ce qu'on sait pas si ça se trouve il l'a pété dans son vestiaire après Tottenham et comme ça ne marche pas, et ben il décide de faire ça en public. Non? T'as pas eu d'écho là-dessus après
Et d'ailleurs, Simone, il faisait ça.
Il y a pas mal de réunions avec ses joueurs en disant voilà, on peut pas aborder un match pareil,
une
équipe pareille de cette façon-là.
Ouais.
Et là, il est devenu fou parce que ils avaient prévenu avant le match en leur disant on peut pas, c'est un match à l'extérieur, ça va être la même chose que contre Tottenham, on aura beaucoup de ballons, mais on peut pas se permettre de faire les mêmes erreurs qu'on avait fait à Wembley contre Tottenham. Mmh. Et la même chose, exactement la même chose arrive.
Simone, ça lui est arrivé ça en Italie, ce genre de pétage de plomb comme ça en conf?
D'un certain côté, oui. Pas contre ses joueurs ou pas dans cette façon contre tout un effectif. Ça lui arrivait quand même dépend de positions très dures, même avec des mots très aux limites de politically correct, on peut dire. Il utilisait parfois des expressions, ça m'a cassé les couilles.
Oui, il a un langage qui peut être
cool, il a un langage quotidienne, presque trop.
Ouais, familier, un langage familier,
Et l'arrivée aussi de dire. Son fameux mot que j'arrive pas à prononcer, il le dit, c'est dans sa première phrase,
Ouais, ouais, mais.
Son nom,
il est arrivé de dire, insigné, il m'a cassé les couilles.
Attention, l'affaire n'est pas une émission vulgaire.
Non, mais là, il cite.
Ouais, voilà. Ah, oui, il y a des guillemets.
Ah, il est dans la citation, Pierre.
Vas-y, en italien. C'est plus mignon, en italien.
En italien, il dit, insigne, mi ha rotto il cazzo. C'est encore plus.
Ah, c'est même pas les couilles, d'ailleurs.
Attends, oh, i coglioni.
Sois
précis quand même.
Secondo me, si je me souviens bien, il a dit le cazzo. Ah.
Mais franchement, ça change pas beaucoup.
J'ai l'impression d'entendre
ça change pas grand-chose.
Marco Simone.
Alors je vois français qui comprennent pas. Ça change pas le fond de l'histoire.
Non, mais c'est pas la même fonction.
Mais
techniquement, c'est dingue.
Oui, mais est-ce que ça arrive? Non, pour être sérieux, ça arrive à Naples. On sait qu'on a admiré son travail, mais il faut également dire qu'il a eu. C'était une histoire, Sarri et Naples. Il a eu le temps d'installer. Ouais. Et est-ce que c'est un hasard, Julien, si finalement les équipes qui dominent cette première ligue, Liverpool et Manchester City, sont des équipes qui ont un entraîneur qui n'en sont pas à leur première année, qu'ils ont pu retoucher l'effectif, qu'ils ont pu travailler.
Sarri va avoir du temps, moi, je pense, à Chelsea.
Mais bien sûr, moi, je te dis pas
le premier. Pour Chelsea.
C'est l'heure, les gars. On remercie Julien, en tout cas.
Vous l'aurez compris. Il s'en va déjà, Julien?
Bah oui, parce que.
Attends, Julien, tu vas où, Julien?
Et là, Julien.
Et mon histoire du week-end, elle est
bah alors, oui, tu sais quoi, attends, Julien? Tu restes avec nous. On te reprend juste après ça. Faut qu'on y aille. On revient avec Julien Laurence. On revient. À tout de suite. Ah oui, Christophe Lécuyère.
Football show. L'after foot.